Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Clémence Alezard, mais aussi Tiffaine de Roquigny, Samuel Bernard, Juliette Gadeau, réalisée par Charles Gargasson et mise en onde ce matin par Élise Leu. Alors que se poursuit aujourd'hui à Dakar le Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique, où sont attendus une dizaine de chefs d'État et de gouvernement, nous poursuivons notre série consacrée aux grands enjeux sécuritaires de l'Afrique. Après avoir évoqué hier la place des armées nationales dans le pouvoir politique, nous parlons ce matin du rôle, du poids des puissances étrangères sur la sécurité du continent. De Djibouti à Nouakchott, l'influence des puissances étrangères, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Oui, nous devions être là. Parce que ce qui était important de combattre, c'était le terrorisme. Le terrorisme ici au Mali, le terrorisme en Afrique de l'Ouest, le terrorisme partout.
Serval a rempli sa mission. Il fallait que le Mali retrouve son intégrité, c'est fait. Et donc là, le président de la République a souhaité qu'il y ait une réorganisation de nos forces dans la zone.
Si je regarde l'histoire, l'armée française, elle est présente au Tchad depuis des décennies. Presque au lendemain de l'indépendance, il y a eu appel aux forces militaires françaises, donc à la France, pour venir en soutien pour la sécurité du Tchad.
L'armée française très présente bien sûr en Afrique, au Mali avec l'opération Serval, la Centrafrique avec Sangaris ou encore le Tchad avec ce discours de François Hollande dont on entendait un extrait en juillet 2014 sur la base aérienne Kosei N'Djamena qui devenait alors le quartier général de l'opération Barkhane, une opération qui a remplacé les opérations Serval et Épervier et permettant donc d'organiser la lutte contre les groupes armés djihadistes dans toute la région du Sahel. Au lendemain des indépendances, la France avait prolongé bien sûr ses liens avec ses anciennes colonies, mettant en place des politiques de coopération diverses, dont le volet militaire était un pilier central bien sûr. Depuis plus d'un demi-siècle maintenant, les opérations sont enchaînées, tantôt pour assurer la survie de régimes défendant ses intérêts, tantôt pour en éliminer d'autres. Si cette politique d'intervention a connu des crises, notamment dans les années 90, et bien qu'on nous avait annoncé la fin de la France-Afrique, force est de constater que la présence militaire française en Afrique a rarement été aussi importante. De Djibouti à la Côte d'Ivoire, en passant par la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad, le Cameroun, la Centrafrique, les points d'appui de la force militaire française sont extrêmement nombreux. Alors est-ce qu'on peut parler d'un retour de la France en Afrique? Quelles sont ses motivations et comment participer telle cette France de l'objectif de sécurité? Les militaires français ne sont évidemment pas les seuls à être présents en Afrique. D'autres commencent à s'y intéresser. On parlera bien sûr des Américains, mais aussi des Chinois, des Japonais, des Russes, des Allemands. On parlera beaucoup des États-Unis qui, ces dernières années, ont considérablement accru leur présence. Quelles sont leurs motivations, leurs moyens et puis leur conception aussi de ce que doit être son interventionnisme en Afrique? Voilà un certain nombre de questions qui seront les nôtres ce matin pour les évoquer avec nous ici en plateau. Maya Candel, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes historienne, vous êtes chercheuse à l'université Sorbonne Nouvelle et vous êtes auteure d'un blog Froggy Bottom, une spécialiste bien sûr de la politique étrangère des États-Unis. On verra avec vous dans quelques instants comment justement les États-Unis sont en train de s'implanter du côté de l'Afrique. Également avec nous en duplex depuis Saint-Étienne, Amandine Gnanguénon, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également. Vous êtes chercheuse associée au Centre Michel Delhospital de l'Université d'Auvergne à Clermont-Ferrand. Vous êtes par ailleurs la directrice du projet Guerre et Recomposition Politique dont on avait parlé il y a quelques semaines maintenant à ce même micro. Et vous êtes, il y a même un site internet sur lequel on peut aller prendre un certain nombre d'informations sur ce point. Amandine Gnanguénon, on va commencer peut-être avec vous. D'abord un mot sur ce fameux Forum international sur la paix et la sécurité. C'est donc la troisième édition du Forum. Le thème retenu, c'est l'Afrique face à ces défis sécuritaires, regard croisé pour des solutions efficientes. Pour le moment, les solutions efficientes, elles sont celles qui font appel à des capacités extérieures, que ce soit les Nations Unies, que ce soit des forces d'autres États africains ou bien sûr des forces d'anciennes colonies. Il y a un constat général qui est qu'il y a assez peu d'États en Afrique dont les armées nationales sont en capacité de faire face seules aux défis sécuritaires.
Oui, exactement. Alors, le forum, c'est vrai, le forum de Dakar, c'est la troisième édition, mais j'ai eu l'occasion d'être présente à la première édition. Et finalement, cette question de la sécurité, elle est toujours là en filigrane. Elle revient, c'est l'une des principales préoccupations, surtout qu'en plus, maintenant, quand on dit sécurité, on met beaucoup de choses derrière ce terme sécurité. On parle d'ailleurs beaucoup de sécurité humaine, ce qui implique la dimension économique, sociale, environnementale, surtout dans des régions comme le Sahel, où on parle beaucoup de la sécheresse. On en avait parlé à l'époque aussi pour les crises au Darfour. Mais malgré tout, en fait, finalement, le terme qui, derrière le mot sécurité, ce qui revient surtout, c'est en effet, comme vous l'avez mentionné, c'est la dimension sécuritaire militaire. Et tout ça il reste toujours très présent pour différentes raisons. Tout simplement parce qu'on est face à la question des capacités dont disposent aujourd'hui les armées africaines. Alors on aura peut-être l'occasion de revenir dessus, mais vous l'avez
justement,
déjà...
Justement, venons-y tout de suite, parce que est-ce que c'est seulement un manque de moyens? Est-ce que c'est seulement un problème de capacité? Est-ce que c'est pas aussi le signe que, d'une certaine manière, le pouvoir politique se méfie du pouvoir militaire qui peut être trop souvent encore et potentiellement source de déstabilisation? Pour le dire autrement, est-ce qu'il n'y a pas aussi de la part des États une crainte d'investir dans des armées nationales qui deviendraient incontrôlables?
Mais si, justement, en fait, on retourne quelque part la problématique, c'est-à-dire que si les chefs d'État avaient des armées qui étaient suffisamment fortes, bien équipées, bien payées, ils n'auraient pas de coup d'État. Et en fait, on applique le raisonnement inverse, c'est-à-dire qu'une armée trop forte est en effet un risque pour les pouvoirs politiques de se voir renversés. Or, aujourd'hui, quelles sont les principales préoccupations des armées? Et là, je vais même au-delà des officiers supérieurs et des officiers généraux, des soldats du rang. C'est d'avoir des casernes dignes de ce nom, d'avoir des équipements, d'avoir la possibilité d'aller s'entraîner, d'avoir des munitions et de pouvoir s'entraîner régulièrement, d'avoir une solde qui soit une solde qui leur permette de vivre et donc de ne pas mettre en place des économies de prédation sur les populations. C'est toutes ces logiques-là qui entretiennent, en fait, c'est un système où, en fait, les forces de sécurité et de défense en Afrique, qui sont censées protéger les populations, ont finalement un effet complètement inverse, c'est-à-dire qu'on ne les aime pas, on les craint et on les critique.
Je parlais dans mon introduction, à Monique Nguenon, d'un retour de la France en Afrique. Est-ce que la formule résiste à la réalité? Est-ce qu'on a effectivement observé sur le terrain une montée en puissance des moyens militaires français sur le continent?
Non, je suis pas tout à fait d'accord avec le terme retour, parce que pour moi, elle est jamais vraiment partie. Elle s'est juste adaptée, en fait. Elle s'est adaptée au contexte géopolitique, géostratégique africain, à l'environnement. Vous l'avez mentionné, dans les années 90, vraiment, la ligne directrice qui a été mise en place, c'est ce qu'on a appelé le RECAMP, le renforcement des capacités africaines au maintien de la paix. Et cette ligne-là, alors même si on utilise moins le terme aujourd'hui, cette ligne-là, elle reste très présente. La seule chose, c'est que depuis les années 90, on a eu la disparition de l'organisation de l'unité africaine, la création de l'Union africaine, la montée en puissance des organisations régionales, on l'a vu avec l'intervention de la CDAO, récemment avec la communauté donc économique des États d'Afrique de l'Ouest, l'intervention de la communauté économique des États d'Afrique centrale, également en Afrique australe avec la SADC, l'IGAD dans la Corne de l'Afrique, donc toutes ces organisations régionales qui se sont positionnées. Et le dispositif français, en fait, s'est adapté à cette montée en puissance de ces acteurs régionaux avec l'Union africaine et avec aussi le contexte général qui est que, de plus en plus, les opérations de maintien de la paix portées par les Nations unies qui durent ne sont pas suffisantes, avec notamment la montée du terrorisme et, on l'a vu notamment, l'idée de mettre en place des forces de réaction rapide, comme ça a été le cas donc au Sahel avec la présence française, également en Centrafrique avec, une fois de plus, la présence française. Et comme ça a été le cas, déjà, et ça a été initié en République démocratique
quand
du Congo.
Quand on regarde quand même les chiffres, alors c'est toujours assez difficile d'avoir des chiffres très très précis, mais j'en ai trouvé un pour 2012, 5000 militaires français sur le sol africain. Aujourd'hui, on est à peu près à 10 000, même peut-être un peu plus. Ça a quand même doublé en 5 ans.
Oui, mais ça, c'est du fait de l'opération Barkhane, en fait. C'est l'opération Barkhane qui a nécessité énormément de moyens. Mais la tendance générale, elle était vraiment à la réduction. Prenez, par exemple, plutôt la ligne qu'on peut vraiment évaluer, c'est la présence des coopérants militaires français. Si vous regardez, par exemple, les chiffres que donne la direction de la coopération sécuritaire et de défense, ça a été divisé par 10, quasiment, donc depuis les indépendances. Donc, finalement, la tendance générale, elle est... On fait un constat aujourd'hui avec l'opération opération Barkhane qui nécessite énormément de moyens, mais la tendance générale, elle est quand même à la baisse des effectifs. La fermeture de beaucoup de bases, on a recentré sur les éléments français du Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon, à Djibouti. Donc c'est quand même plus du tout le nombre de militaires français qu'on avait même dans les années 90.
Alors, en France, le chef de l'État, bien sûr, c'est le chef des armées. Puisqu'il arrive désormais à la fin de son mandat, on le sait maintenant, puisqu'il a annoncé qu'il renonçait à briguer un nouveau mandat, on va pouvoir peut-être dresser un premier bilan en la matière. Donc, d'ailleurs, il a, dans son discours, évoqué les grandes opérations extérieures pour lesquelles il a envoyé des soldats. Donc, il a parlé du Mali avec cette opération Serval pour endiguer l'avancée djihadiste. Il a parlé de la Centrafrique pour empêcher, disait-il, un génocide. Il a parlé de l'Irak et de la Syrie. Au-delà de la question de savoir si ces opérations sont des réussites ou pas, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais il y a un constat qui semble s'imposer, il y a très peu en fait de remise en cause du bien fondé du déclenchement de ces opérations. Pour beaucoup en tout cas, la légitimité de ces interventions, elle n'est pas remise en cause, Amandine Ganguenon.
Non, elle n'est pas remise en cause parce qu'elle est nécessaire. En fin de compte, il y a un double discours, une fois de plus. C'est le discours d'appropriation qui résume assez bien ça. C'est-à-dire que ça fait aujourd'hui des décennies, et ça avait commencé, je vous le disais, dans les années 90 avec RECAMP, renforcement des capacités africaines au maintien de la paix, où on voulait en fait progressivement donner la possibilité aux acteurs africains, les armées nationales, les organisations régionales, l'Union africaine, la possibilité d'agir pour essayer de résoudre ces crises. Le problème, c'est que cette appropriation, elle est limitée par le manque de moyens, par l'incapacité à anticiper et l'incapacité aussi à finalement adapter les moyens à la menace. Et on l'a vu, la question terroriste, de ce point de vue-là, la lutte contre le terrorisme a complètement accéléré la donne, qui fait qu'aujourd'hui, là où on est encore en train d'essayer de mettre des armées à niveau, on aurait déjà besoin de davantage d'éléments pour faire du renseignement, on aurait davantage besoin d'être dans de la mutualisation, du partage d'informations. Et aujourd'hui, par exemple, le G5 Sahel est un très bon exemple. Le G5 Sahel, donc, qui regroupe aujourd'hui les États du Mali, de la Mauritanie, du Burkina, du Niger et du Tchad, essaye de mettre en place, en fait, des structures qui permettent à ces hauts gradés, à ces hommes politiques, de se rencontrer régulièrement pour créer davantage de confiance. Voilà, donc aujourd'hui, il n'y a pas de remise en cause parce qu'il y a encore un besoin, et il y a un besoin qui est exprimé aussi par des dirigeants politiques africains. Et il ne faut pas se leurrer, il y a un double discours derrière ça. C'est-à-dire la volonté d'être toujours souverain et de finalement, politiquement, de prendre la décision finale. Et en même temps, quand il s'agit d'intervenir, ils ne peuvent pas le faire sans aller consulter Paris.
Oui, non, vous avez raison de rappeler que, pour ce qui est du Mali, par exemple, l'armée française était allée au Mali à l'appel du président malien. Donc, vous avez raison de le préciser. Si on essaie de faire un petit bilan sur le Mali, ces dernières semaines, on a vu des groupes armés qui ont multiplié des actions, notamment dans le nord, évidemment, du Mali, qui marque vraiment cette forme de retour dans leurs anciens sanctuaires. Ces derniers jours, il y a eu toute une série d'attaques ciblant les unités de l'armée française et d'ailleurs également la mission onusienne. Il y a eu cette récente attaque contre l'aéroport de Gao, une attaque qui a d'ailleurs été menée par le groupe affilié Al-Qaïda Al-Mourabitoun, dirigé par Mokhtar Belmokhtar, dont on annonce très régulièrement la mort avant qu'elle ne soit démentie. Ça a été encore le cas il y a quelques jours. Est-ce qu'il faut comprendre que l'efficacité de l'armée française dans sa mission de pacifier le Nord Mali est loin d'être atteinte?
Oui, et puis je pense que ça reste une mission extrêmement difficile, et je reste persuadée que même l'armée française, avec tous les moyens et la bonne volonté politique de ses dirigeants et même de ses soldats, ne sera pas suffisante. C'est un problème qui s'inscrit dans une durée qui dépasse même la durée de l'opération, qui dépasse même le mandat actuel du président. C'est un problème politique, c'est un problème de cohésion nationale, un problème de cohésion sociale, et cette question du terrorisme, d'après moi, elle est même aborder, justement, je vous disais, la question militaire n'est pas la solution. Donc on peut intervenir et compter le nombre de terroristes qu'on tue chaque mois, chaque jour, mais ce sera jamais suffisant, parce qu'elle reviendra toujours à un moment donné, tant qu'on ne prend pas en compte une approche globale qui nécessite de s'interroger sur pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a ces terroristes au Mali, quelles sont leurs revendications, quels échos leurs discours trouvent aussi dans la population. Donc pour moi, de ce point de vue-là, il n'y a absolument pas à remettre en cause les efforts qui sont faits par l'armée française, mais c'est plutôt de s'interroger projet sur l'environnement et les effets que peut avoir sur le long terme l'armée française. Quels effets elle peut avoir sur le réel au quotidien, sur le court terme, c'est une chose, elle en a, mais sur le long terme, cette action, elle sera jamais suffisante.
Alors justement, sur les effets, parce qu'il y a l'action, j'allais dire, directe sur la sécurité, mais il y a aussi tout le travail de formation. Tiens, écoutez un extrait, ce sont des soldats français qui forment l'armée malienne.
Nous, on est reparti tout à zéro, donc on a repris la formation de base. Et là, au bout d'un mois, et demi maintenant, le résultat commence vraiment à être satisfaisant.
Oui, j'ai appris plein de choses ici, avec les nouvelles méthodes de combat, avec les nouvelles manières de charger les armes.
Ils sont conscients que leur pays est passé à côté d'une catastrophe et donc il faut changer. Il faut changer la méthode de fonctionnement de l'armée pour éviter que cette catastrophe puisse se reproduire demain.
Monsieur Dordé, en chef, vous n'êtes pas en situation de conflit, vous n'êtes pas...
Il est très bon que les éléments vraiment s'approprient les notions essentielles au droit international humanitaire ou au droit de conflits armés qui protègent les militaires, qui protègent les civils pendant la période de crise.
Voilà, extrait d'un reportage qui avait été diffusé en 2013 sur France Télévisions. Aujourd'hui, cette armée malienne, elle dispose d'une formation de la part d'un certain nombre de pays. Il y a une mission de formation de l'Union européenne à laquelle participent la France, le Royaume-Uni, la Suède, la Finlande, la Lituanie, le Luxembourg et l'Irlande. Quelle est l'ambition de cette formation et quel bilan est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui ?
Mais l'ambition de la formation, alors j'ai envie de dire là pour le coup on est quasiment dans un retour en arrière. L'ambition de la formation, c'est d'avoir une armée qui soit une armée à niveau, qui puisse avoir la capacité, donc bien sûr comme je vous le disais, de lutter contre la menace terroriste, mais on n'en est même pas encore à ce niveau-là. On en est à un niveau où il faut qu'on ait une armée qui soit capable de travailler ensemble, qui apprenne à tirer, qui apprenne à s'entraîner. J'ai envie d'être un peu critique par rapport à ce qu'on a entendu. La formation de l'armée malienne, elle est pas nouvelle. Il y a des accords de coopération depuis très longtemps. Alors la France, oui, mais les autres puissances sont aussi concernées, et l'Union européenne également. Une fois de plus, je pense qu'il faut prendre un peu de hauteur et prendre en compte ces formations dans leur environnement plus général. Et on l'a souligné en introduction, c'est la question de la politique, c'est-à-dire qu'il y a une absence politique de ressources humaines au Mali, mais dans d'autres pays, qui fait qu'aujourd'hui, on va former des militaires et des soldats à un certain nombre de compétences. Et ces compétences-là, ces personnes-là, on va finalement les laisser à l'état de déliquescence. Il n'y a plus d'entraînement une fois que l'Union européenne va retirer sa mission. Il n'y a pas du tout de valorisation. On ne crée pas de parcours professionnel qui soit cohérent, une fois de plus, parce qu'on ne veut pas avoir des soldats qui soient suffisamment bien formés en raison des risques de coup d'État.
Mais quels soldats et quelles compétences, Amand Nguyen-Nguyen ? Parce qu'on a l'impression que ces formations, mais vous me dites si je me trompe, elles sont là d'abord et avant tout. Il ne s'agit pas en réalité de procéder à une refonte des armées nationales, précisément. Ce qu'on essaye de faire, me semble-t-il, mais vous allez nous le dire, c'est d'abord et avant tout de faire des formations sur des petites forces spéciales, des forces d'élite, et puis aussi de travailler sur la question du renseignement. C'est surtout ces deux volets-là sur lesquels on travaille, n'est-ce pas ?
Oui, mais en ce moment, oui, parce que la demande, elle est sur la lutte contre le terrorisme, et c'est les deux éléments qui sont nécessaires pour pouvoir mener à bien ces missions. Mais finalement, vous vous rendez compte, et j'avais eu l'occasion aussi de discuter avec des représentants de la force européenne au Mali, c'est que les bases ne sont pas là. Avant de faire du renseignement, avant d'aller vers des forces spéciales, une fois de plus, il faut que les armées soient suffisamment bien équipées, il faut que les soldats, depuis les formations qu'ils ont peut-être eues il y a 5 ou 10 ans, aient continué à s'entraîner et donc sachent tirer, il faut qu'ils sachent se déplacer dans des environnements hostiles. Il y a tous ces éléments-là qui rentrent en ligne de compte. Des soldats qui sont jamais sortis de leur caserne, comment voulez-vous ensuite qu'ils soient opérationnels lorsque vous les envoyez dans le nord du Mali? C'est ces questions-là qui sont en fait toujours présentes. On peut essayer de faire
Et sur les forces d'élite, sur le travail de formation auprès des forces spéciales, des élites, est-ce que ça, c'est plus efficace ? Est-ce que ça fonctionne ? Je vous pose la question parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette prise d'otage à l'hôtel Splendide à Ouagadougou en janvier 2016, les forces spéciales du Burkina avaient attendu les forces spéciales françaises pour lancer l'assaut. Est-ce que ce n'est pas ça ? Est-ce que ce n'est pas aussi le signe que, d'une certaine manière, y compris la formation de ces petites unités pour réaliser des opérations extrêmement ciblées, précises, sporadiques, est-ce que ça aussi, ce n'est pas un échec ?
je pense que sur cet exemple-là, c'est pas forcément ça ne démontre pas forcément un échec. C'est plus que, en fait, ça démontre qu'il y a une politique, une logique qui est une logique d'accompagnement, en fait, d'action conjointe. Donc là où c'est le plus difficile, et c'est finalement, j'ai envie de dire, l'histoire de la coopération militaire française, c'est que ils sont toujours là derrière, en fait. Ils sont toujours là en appui parce qu'il y a toujours un besoin à un moment donné, et finalement la demande et reste toujours très importante. Donc le fait qu'ils aient attendu les forces françaises démontre que aujourd'hui il y a quand même ce besoin d'accompagnement, et que il y a aussi une crainte de prendre ses responsabilités. Voilà, parce qu'après au final, est-ce que le pouvoir politique peut assumer que on ait des forces spéciales un peu maladroites qui interviennent toutes seules? Donc on préfère se dire on va attendre d'avoir les formateurs qui sont derrière nous pour nous appuyer, nous assurer qu'on fasse les bonnes choses. Mais par exemple, on a mis en avant l'intervention des forces spéciales maliennes, voilà, qui sont intervenues aussi. Donc les choses avancent. Elles avancent doucement, mais elles avancent. Mais le problème, c'est, comme je vous le dis, il faut les prendre en compte dans un contexte politique qui, à partir du moment où il n'y a pas de volonté politique et où on laisse à l'abandon même des éléments qui ont été bien formés, sur le long terme, on n'arrivera pas à avoir des résultats concrets.
Toute dernière question, et puis ensuite, on se tournera vers notre autre invité pour parler des États-Unis. Mais quand on regarde le nombre de Français qu'il y avait dans la MINUSMA, donc la mission onusienne à la fin 2013 au Mali, il y avait 17 Français. Il y avait 13 militaires et 4 policiers, contre 60 pour l'Allemagne, 260 pour le Nigeria, presque 800 pour le Sénégal. Est-ce que ça s'explique par le fait que précisément la France avait bien sûr par ailleurs des soldats dans le cadre de l'opération Serval? Ou est-ce qu'il faut également y voir le fait que la stratégie de la France, c'est plutôt précisément de favoriser une approche de coopération bilatérale plutôt que le soutien d'initiatives régionales, internationales?
Je pense qu'il y a une volonté de se positionner un peu sur tous les plans, mais il y a déjà tellement de militaires justement français qui sont engagés dans cette tradition française de bilatéral. Maya pourra nous en parler, mais le retour que j'ai eu souvent en discutant avec des officiers américains, c'est qu'il y a vraiment une admiration en fait pour les soldats français de connaître aussi bien le terrain, d'être sur le terrain. Et je pense que finalement c'est plus intéressant et plus humainement porteur d'être au contact directement, d'être dans les casernes, d'être au contact des officiers aussi, dans les écoles de formation, les écoles nationales à vocation régionale, qu'être dans les instances, j'ai envie de dire, plus politiques et diplomatiques, où là, assez facilement, les diplomates, les militaires laissent la main aux diplomates, voilà, pour traiter de ces questions.
Afrique, les défis sécuritaires de Djibouti à Nouakchott, l'influence des puissances étrangères. On est avec vous, Amandine Ganguenon et Maya Kandel. On va parler justement des États-Unis.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
L'Afrique agit contre la terreur et les conflits, et sachez que les États-Unis soutiennent les efforts de renforcement des opérations de maintien de la paix de l'Union africaine. Nos efforts doivent aller de pair avec des efforts africains en termes de bonne gouvernance. Ces choses vont ensemble. Il faut que, en Afrique centrale, les leaders donnent l'exemple.
Voilà, on va parler de l'action américaine en Afrique. On entendait là un extrait d'un discours, le discours au siège de l'Union africaine en Éthiopie en juillet 2015 de Barack Obama. C'était la première fois, Maya Kandel, qu'un président américain se rendait au siège de l'Union africaine. Il en avait profité pour dire que les États-Unis soutiennent l'Afrique dans la lutte contre le terrorisme et qu'ils étaient prêts à intensifier leur coopération, et notamment dans le domaine militaire. Pendant des années, les États-Unis se sont assez peu intéressés à l'Afrique, d'abord parce que les anciennes colonies affirmaient une présence de façon assez prégnante, mais aussi parce qu'en réalité, Washington considérait que c'était pas forcément une priorité stratégique. Et quand on regarde les choses aujourd'hui, on voit que les États-Unis sont relativement présents, en tout cas de plus en plus. Il y a même maintenant un commandement des États-Unis pour l'Afrique, l'AFRICOM, qui a été créé en 2007, dont la mission est de coordonner toutes ses activités militaires sur le continent africain. De quand date ce retournement, et finalement, pourquoi les États-Unis ont fini par s'engager plus en avant en Afrique?
Alors, je crois qu'il faut quand même rappeler, pendant la guerre froide, l'Afrique était vraiment un des terrains d'affrontement par procuration entre les États-Unis et l'Union soviétique. Mais c'est vrai qu'avec la fin de la guerre froide, les États-Unis vont s'éloigner de l'Afrique. On a un document du Pentagone du début des années 90 qui déclare, noir sur blanc, les États-Unis n'ont pas d'intérêt stratégique en Afrique. Et en plus, à cette période aussi, en 93 précisément, les États-Unis avaient envoyé un certain nombre de soldats dans une mission plutôt humanitaire, humanitaire en Somalie. Et en 93, donc, on va avoir ce traumatisme à Mogadiscio, traumatisme pour les Américains, puisque 18 soldats américains sont tués à Mogadiscio. En plus, l'un des cadavres est traîné.
Traîné dans les rues, voilà, devant les caméras des journalistes.
Au moment, en plus, de l'effet CNN, à toute cette époque particulière. Et donc, vraiment, en quelques mois, les États-Unis se retirent. Et pendant toute cette période des années 90, finalement, les États-Unis semblent se désintéresser de l'Afrique. Et donc, le réel tournant d'un retour des États-Unis sur le plan politico-stratégique, c'est vraiment avec les attentats du 11 septembre 2001. Même si, effectivement, en 98, on a donc les deux premiers attentats majeurs d'Al-Qaïda.
À Nairobi et en Tanzanie.
Voilà, contre les ambassades américaines. Et là, il y a quand même, sur la fin de l'administration Clinton, un retour d'un intérêt des Américains pour l'Afrique. Et puis, l'autre aspect quand même qu'il faut évoquer, c'est que Bill Clinton dira plus tard que finalement son principal regret, enfin la plus grosse tâche morale sur son bilan, c'est le génocide au Rwanda. C'est que les États-Unis n'aient rien fait au Rwanda. Et en fait, à la fin de son deuxième mandat également, il va mettre en place des programmes de formation qui existent toujours aujourd'hui, qui s'est d'abord appelé ACOTA, ACRI, et qui est en fait un programme de formation des armées africaines au maintien de la paix, aux opérations de maintien de la paix. Donc on a ça qui commence à se mettre en place à la fin des années 90, mais comme je le disais, effectivement, le vrai tournant, ce sont les attentats du 11 septembre. Juste après, en 2002, on a les États-Unis qui signent un accord avec Djibouti, donc qui va devenir leur principale et leur seule réelle base sur le continent africain. Et puis, ils lancent deux programmes sous la bannière de l'opération Enduring Freedom, donc OEF, qui est cette même opération qui va se décliner en Afghanistan puis en Irak, dans la Corne de l'Afrique, pour lutter contre le terrorisme en Afrique de l'Est. Et aussi, en 2002, ils mettent en place un premier programme qui vise à lutter contre le terrorisme dans le Sahel.
Voilà, donc il y a peut-être un recentrement vers la zone saharo-sahélienne.
Alors disons qu'ils s'y intéressent un petit peu, même si traditionnellement, vraiment les zones prioritaires pour les États-Unis en Afrique, c'est quand même l'Afrique anglophone. En cela, ils sont vraiment les héritiers de l'Empire britannique, hein, cette espèce de continuation, filiation qui va de...
Ils se sentent une responsabilité spécifique vis-à-vis des anciennes colonies britanniques ?
Disons qu'ils sentent davantage de liens avec ces pays, très clairement, accessoirement.
Mais une responsabilité spéciale ?
Alors, je dirais que ça, c'est plus quelque chose d'historique qu'il faudrait même reprendre en 45, en fait, le moment où les États-Unis vont commencer à vraiment, enfin, vont mettre en place l'architecture du système international qu'on connaît aujourd'hui et prendre réellement des responsabilités globales. Ce qui va déclencher ça, en partie, c'est le constat que la Grande-Bretagne, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, n'en est plus capable. Et petit à petit, c'est vrai que ça va se décliner également sur l'ancien empire colonial britannique et donc pour l'Afrique, plutôt les pays d'Afrique anglophone.
En tout cas, je retiens ce que vous dites à propos du Rwanda et Bill Clinton. Finalement, le Rwanda est à Bill Clinton ce que la Syrie, d'une certaine manière, est à Barack Obama aujourd'hui. On pourrait peut-être faire ce parallèle.
C'est vrai, parce qu'on a beaucoup comparé la Syrie et la Bosnie, mais Clinton était intervenu en Bosnie.
Maya Kandel, je crois qu'aujourd'hui, il y a à peu près 5000 soldats américains sur le continent africain. Mais vous dites que la présence américaine en Afrique, elle se veut relativement discrète. C'est la stratégie de l'empreinte légère, light footprint en anglais. De quoi est-ce qu'il s'agit et quand est-ce qu'on a mis en place finalement cette vision, cette stratégie de la présence américaine en Afrique ?
Alors, il y a deux choses à souligner parce que finalement, cette empreinte légère, le fait de ne pas avoir une trop grande visibilité des militaires américains en Afrique, on peut voir cet aspect-là, il est présent dès 2001-2002, donc dès ce retour un peu des États-Unis en Afrique, et il est lié avant tout, je dirais, au traumatisme de Mogadiscio. Donc vraiment cette idée qu'il ne faut pas être trop visible, que l'Afrique c'est dangereux, en particulier pour les militaires américains. Après, sous Obama, c'est vrai que cette idée d'empreinte légère va définir en fait toute sa politique étrangère, enfin, ou en tout cas...
C'est le fameux leading from behind, quoi.
Voilà,
c'est la traduction africaine de cette doctrine.
Exactement. C'est un ensemble qu'il faut relier aussi à sa vision du monde, son analyse aussi, non seulement de l'évolution des relations internationales, mais aussi du bilan de Bush, hein, qu'il considère comme un bilan désastreux, en particulier en raison de ces déploiements massifs militaires des années 2000. Et donc, il va redéfinir un peu à la fois le choix des interventions militaires américaines et la manière, en fait, les modalités. Et pour l'Afrique, on a vraiment cette idée d'empreinte légère. Donc, qui se définit par... alors, vous évoquiez le leadership en retrait, ça c'est un des aspects. Donc, les États-Unis qui interviennent dans des coalitions et pas forcément en première ligne. Et ça, c'est, alors l'expression désignait l'intervention en Libye, mais en fait, elle décrit très bien aussi la manière dont les Américains soutiennent la France, par exemple, ont soutenu la France au moment de l'opération Serval au Mali, et puis plus généralement soutiennent la France et les pays associés, non seulement dans le Sahel, mais aussi maintenant dans la lutte contre Boko Haram. Donc c'est un des aspects. Et puis, bien sûr, ça se décline à travers un certain nombre de modalités concrètes. Donc, le fait que ce soit avant tout des forces spéciales américaines qui soient déployées. On parlait de Djibouti, donc c'est la principale base américaine.
Pour le reste, on en reparlera tout à l'heure, mais...
Ce sont des petits postes. Voilà, parfois, ça va être juste un hangar sur un aéroport dans un pays d'Afrique.
C'est pour ça que parfois, on ne se rend même pas compte qu'ils sont là et qu'on se rend compte bien des années après qu'il y avait des militaires américains. Je pense par exemple au cas du Burkina Faso, où pendant des années, ils sont passés totalement inaperçus avant qu'on se rende compte, ah tiens, il y a des Américains au Burkina Faso.
Exactement.
Il y a évidemment une chose qui a beaucoup changé dans la stratégie militaire globale des États-Unis, c'est l'utilisation de drones. Ça va dans le sens un peu général, global. Mais bien sûr, ça prend aussi une forme du côté de l'Afrique. On voit qu'il est question, par exemple, de construire de nouvelles pistes. C'est ce que expliquait, je crois, le site The Intercept récemment du côté du Niger, une piste de drones. Comment comprendre cette évolution et qu'est-ce que ça donne comme capacité supplémentaire aux États-Unis dans son action en Afrique ?
Alors, effectivement, les drones sont une des modalités de l'empreinte légère également, bien sûr. Après, il faut bien distinguer entre les drones de surveillance et les drones armés. En Afrique, pour l'essentiel, il s'agit de drones de surveillance, même si les Américains ont opéré des frappes de drones en Somalie, également en Libye, plus récemment. Donc, ça participe à la fois à cette empreinte légère, ce souci de discrétion, et puis aussi, puisqu'on parle, il est quand même beaucoup question ici de la lutte contre le terrorisme, on sait que le renseignement, c'est un des aspects déterminants, et donc ces drones de surveillance permettent une augmentation de la capacité de renseignement. Et on le voit effectivement, d'ailleurs la France aussi a acquis récemment des drones américains, et une de ces pistes de drones une des bases de drones de surveillance de la France est juste à côté de la base américaine au Tchad, par exemple.
Oui. Et il va y avoir une base du côté du Niger, hein. C'est ce que dit justement le site The Intercept. Je crois que c'est 100 millions de dollars. Alors évidemment, le Niger, on le comprend très bien, c'est vraiment au cœur de cette zone où on a des foyers djihadistes. Amandine Gdanguénon, je me tourne vers vous. J'aimerais savoir ce que la France pense finalement de cette arrivée comme massive, j'allais dire, peut-être pas, mais en tout cas cette montée en puissance des moyens militaires américains en Afrique, Amandine Gdanguénon.
Bah c'est pas en fait c'est vrai que la présence américaine est comme l'a dit Maya a pas mal augmenté. Maintenant le fait que les militaires français travaillent avec des militaires américains, ça c'est pas quelque chose de nouveau. Déjà à l'époque avec Récamp et Maya citait les programmes, différents programmes ACOTA, ACRI, en fait tout ça relevait d'une initiative qu'on a appelée le P3 à l'époque, qui était donc composée des États-Unis, de la France et de la Grande-Bretagne, avec vraiment cette initiative d'essayer de autant que possible d'harmoniser les politiques et les engagements qui pouvaient être faits en termes de renforcement des capacités des États africains. Donc c'est pas forcément un phénomène nouveau.
Et sans être nouveau, ça n'embête pas Paris quand même de voir Washington faire venir des soldats, construire des nouvelles bases, c'est pas un problème pour Paris ça ?
Non, j'ai pas ce sentiment parce que le Mali l'a très bien démontré, et la Centrafrique aussi, la France se sent seule dans ses interventions. Elle est seule au premier plan, elle est seule à assumer les conséquences, elle est seule à être attaquée aussi souvent quand ça marche pas, quand elle s'en va, on dit qu'elle part trop tôt, quand elle est pas là, on dit qu'elle est pas là. Non, je pense qu'au contraire, elle est très en demande d'avoir d'autres puissances qui ont aussi des moyens techniques, logistiques, pour le renseignement notamment, pour les questions de lutte contre le terrorisme. terrorisme, d'avoir d'autres acteurs qui soient là aussi pour l'épauler et puis même si possible essayer de prendre sa place. Mais ça, je pense que là-dessus, il faut pas se leurrer. L'histoire et la tradition française étant ce qu'elle est en Afrique, aucun acteur ne pourra jamais remplacer la France de ce point de vue-là, dans la relation qu'elle a créée avec les Africains depuis la colonisation. Donc ça, c'est évident. Mais non, je pense qu'il n'y a pas de menace. Après, le problème, mais qui est général, et peut-être qu'on le verra plus tard, on reviendra dessus, mais le problème, c'est surtout le manque de coordination. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'acteurs aujourd'hui et que, en fait, même si ces acteurs se côtoient dans des pays comme au Mali ou dans des pays où il y a des initiatives finalement bilatérales, il n'y a pas du tout d'harmonisation et de coordination. Et donc, c'est aussi un élément qui crée une forme de cacophonie et qui fait aussi que politiquement, pour les dirigeants africains, c'est aussi plus facile d'instrumentaliser le fait que chacun fait les choses dans son coin et que finalement on finit par faire la même chose.
Comment comprendre qu'il n'y ait pas de coordination ? Parce que vous le dites, finalement, la France est en attente d'avoir des partenaires qui seraient susceptibles de l'aider dans la lutte contre le terrorisme. Voilà que les Américains débarquent et proposent leurs services. Et vous nous dites, mais il n'y a pas de coordination. Là, il y a quelque chose qui paraît absolument fou.
Mais il n'y a pas de coordination aussi parce qu'il ne faut pas oublier que si les États sont présents, c'est parce qu'ils ont des intérêts à défendre. Donc,
revient à ma première question qui est de savoir si Paris n'est pas embêté justement de voir ces Américains arriver et peut-être mettre à mal ses intérêts.
Non, c'est pas forcément mettre à mal les intérêts, c'est que chacun a des agendas et des intérêts qui sont différents et qui sont pas forcément, qui s'alignent pas forcément en même temps. Par exemple, Maya pourra peut-être confirmer, mais j'ai l'impression que les Américains étaient très tôt sur les questions du terrorisme, avec l'initiative Pense à elle, etc. Là où la France aujourd'hui apparaît vraiment sur le devant de la scène avec l'affaire malienne depuis 2012, les Américains étaient dans la notion de bande sahélo-saharienne. Pour les Américains, ça faisait déjà bien longtemps qu'il y avait justement une présence pour essayer de lutter contre le terrorisme. Donc je pense que le problème, c'est à quel moment les agendas peuvent se caler, les intérêts se calent. Donc sur le papier, on coordonne, on travaille ensemble, mais dans la pratique. Et puis il y a aussi les manières de travailler sont pas les mêmes. L'héritage français, et on l'a vu, alors là, en dehors de l'Afrique, mais la manière dont les Américains se comportent quand ils sont sur le terrain n'est pas du tout la même, comme l'a démontré l'Irak, n'est pas du tout la même que les Français, qui vont au contact des populations, qui n'hésitent pas à faire du civilo-militaire depuis très longtemps, alors que les Américains ont aussi une vision très on reste dans notre forteresse, on va moins en contact. Alors je sais pas si ça a changé, mais je sais qu'à l'époque c'était aussi une des grosses différences qui faisait que c'est pas du tout les mêmes manières de travailler sur le terrain.
Maya Kandel, sur cette question du manque de coordination et puis peut-être aussi sur cette question de culture de l'intervention qui serait pas la même.
Oui, effectivement, on parlait du forum de Dakar, j'entendais un officier français hier qui disait, je crois que sur le Sahel, il y a 19 programmes différents et un gros manque de coordination. Alors, c'est lié effectivement au fait qu'il y a plusieurs acteurs. Par rapport à l'aspect France-États-Unis en Afrique, c'est vrai que, quand même, historiquement, il y a une concurrence très nette. Pendant la guerre froide, justement, quand Kennedy avait créé le Peace Corps, les Français avaient vu ça vraiment d'un très, très mauvais œil. Mais sans remonter aussi loin, je pense que les États-Unis, bien sûr, comme la France, ils ont des intérêts et ces intérêts sont aussi d'établir des liens, de maintenir leur prééminence. Ils voient aussi la concurrence avec la Chine en Afrique. C'est vrai que là, on est sur la dimension sécuritaire, mais au départ, Barack Obama, qui est le premier président en fait à avoir fait une stratégie américaine pour l'Afrique subsaharienne en 2012, donc ça c'est quand même intéressant dans l'histoire. La préoccupation première n'est pas la sécurité. Lui voulait vraiment mettre en avant les opportunités économiques, les liens, également développer les programmes plus éducatifs. Et d'ailleurs, aux États-Unis, les responsables de l'administration Obama, quand on leur demande leur bilan sur l'Afrique aujourd'hui, ils vont mettre en avant plutôt des initiatives justement sur l'éducation, sur les jeunes leaders, sur les femmes, sur l'énergie, beaucoup plus que la dimension sécuritaire. Mais le fait est que cette dimension sécuritaire, elle est importante. Pour revenir à l'aspect France-États-Unis, je crois que moi, je consultais avait un certain nombre de télégrammes diplomatiques qui avaient été révélés en 2011, 2012, 2013, on voyait quand même en fait qu'il y avait eu un changement du côté français et que ce changement d'attitude vis-à-vis d'une présence et d'une coopération avec les États-Unis en Afrique, ce changement d'attitude était lié au problème budgétaire en fait de la France. C'est-à-dire que les États-Unis ont cherché aussi à travers l'empreinte légère non seulement à être plus discrets, mais aussi à ce que tout cela leur coûte un peu moins cher. Cette dimension, elle est très présente pour la France également.
Alors, on a beaucoup souligné, bien sûr, les incertitudes qui pèsent sur ce que sera, sur ce que pourrait être la politique étrangère du prochain président des États-Unis, Donald Trump. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre s'agissant de la politique africaine des États-Unis? Est-ce qu'on a une idée de ce qu'elle pourrait être?
Alors, c'est très difficile de se prononcer sur ce que va être la politique étrangère de Trump. Ça, c'est lié au personnage, c'est lié au fait qu'il revendique l'incertitude comme stratégie. Sur l'Afrique, au moins, on a cette aspiration. Enfin, il a rien dit sur l'Afrique. On peut même pas dire qu'il s'est contredit, qu'il a pris des positions contraires. Il en a absolument pas parlé. Moi, je dirais comme ça, étant donné ce qui ressort un peu du personnage, une vision un peu transactionnelle des relations internationales, et puis, il faut quand même rappeler le fait, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais l'Afrique, même si elle prend une importance, elle a pris davantage d'importance dans la politique extérieure des États-Unis, elle reste quand même tout en bas des priorités régionales américaines. Quand ils énoncent leurs priorités régionales, l'Afrique vient en dernier. Donc, alors, s'agissant des États-Unis, vu leurs 600 milliards de dollars de budget annuel de défense, même la toute dernière priorité, ça va représenter
ça reste quand même important.
Voilà. Mais c'est quand même pas dans leur priorité.
Et est-ce qu'on note des grandes différences entre les présidents démocrates et les présidents républicains dans leur politique africaine?
En fait, pas tellement. Pas tant que ça, en fait. Ça reste un domaine où il y a un relatif accord entre les deux parties sur ces questions. Moi, je dirais que l'empreinte légère, ça correspond bien aux idées de Donald Trump. Donc, sur le plan sécuritaire, il pourrait poursuivre ça. Peut-être même en augmentant l'aspect privatisation de la guerre, puisque en Afrique en particulier, cette empreinte légère repose aussi sur un certain nombre de mercenaires, d'entreprises privées, de ce qu'on appelle des sociétés militaires privées, qui secondent le Pentagone sur le continent. En revanche, c'est vrai que les Américains essayent quand même d'avoir à la fois des programmes militaires, mais aussi des programmes civils, d'avoir un certain équilibre. Il est possible, et puis aussi d'avoir un certain nombre de conditions de gouvernance sur les droits de l'homme par rapport à l'aide ou à la formation qui est dispensée aux armées africaines. Il est possible qu'avec Donald Trump, ces considérations soient un peu moins importantes.
On va parler, pour les quelques minutes qui nous restent, de Djibouti. La République de Djibouti, qui a gagné son indépendance en 1977. À l'époque, il y a eu des accords de défense signés entre Djibouti et Paris. Des forces françaises se sont installées dans le camp Le Monnier. Et puis plus tard, en 2002, les Américains, justement, dont on parlait avec vous, Maya Kandel, sont également installés à la faveur d'un accord bilatéral. Et puis l'armée japonaise a débarqué. L'Italie a également été autorisée. Et aussi, et peut-être surtout, la Chine qui va mettre en place sa première base lointaine, c'est-à-dire en dehors de la mer de Chine méridionale. On va retrouver tout de suite depuis Johannesburg, Jean-Philippe Rémy. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chef du bureau Afrique du Monde. Vous avez écrit un papier très récemment sur la présence militaire internationale à Djibouti. Djibouti, objet de toutes les convoitises. Vous étiez donc dans ce petit pays de la Corne de l'Afrique. Vous expliquez, dans un rayon de 20 km se trouve donc la base américaine, celle du Japon, de la France. Il y a quasiment 10 000 hommes qui sont là. C'est un véritable concentré des enjeux et puis aussi des batailles qui se jouent aujourd'hui en Afrique pour affirmer sa présence sur le continent. Pourquoi Djibouti? Qu'est-ce qui explique que tous les pays veulent être présents à cet endroit, Jean-Philippe Rémy?
Bon, la première réponse, c'est bien entendu la position de Djibouti, tout à côté du détroit du Bab el-Mandeb, qui ouvre l'une des grandes routes commerciales de la planète, le pétrole, les marchandises, qui passent par la mer Rouge, le canal de Suez, dans un sens ou dans un autre. C'est une des grandes routes, il est nécessaire pour tous ceux qui s'intéressent à une petite planète qui inquiète parfois, et de plus en plus d'ailleurs, d'être au plus près de cela. C'est une proximité qui a toujours été, depuis l'indépendance de Djibouti, une forme de, avec des hauts et des bas selon les moments, les processus historiques, qui a toujours été un peu la rente de Djibouti. Maintenant, si
mais cette proximité, est-ce qu'elle n'est pas un peu dangereuse? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de tension, voire même d'accrochage entre les différentes forces en présence? Alors, on pense bien sûr aux États-Unis et à la Chine, on pense à la Chine et au Japon. Est-ce qu'il n'y a pas des risques là?
La question, c'est est-ce qu'on arrive à concevoir un espace où des pays, et donc des puissances comme les États-Unis, la Chine, avec la France bien entendu, dans son rôle historique, peuvent cohabiter et peut-être même se trouver un peu des canaux pour communiquer de manière plus commode en cas de montée de tension sur d'autres régions du monde. On pense que classiquement à l'incident naval entre les États-Unis et la Chine et le Japon par exemple, qui dégénérerait quelque part en mer de Chine. Et puis, qu'est-ce qui se passerait à Djibouti? C'est la question que tout le monde se pose, on n'a pas encore de réponse, vu que tout ceci évolue à très très grande vitesse. On se bouscule un petit peu à Djibouti pour s'y installer, parce que voilà, c'est la nouvelle configuration planétaire. Les autorités de Djibouti, elles parient sur le fait que les gens qui auraient des problèmes ailleurs se parleraient plus facilement sur ce tout petit confetti, où ça n'aurait d'ailleurs aucun sens de s'attaquer, de se faire la guerre, ça serait parfaitement ridicule. Bon, on peut considérer que c'est une hypothèse intéressante, mais c'est vrai que la poussée générale, vous voyez, la Russie avait tenté d'avoir elle aussi une implantation, une base à Djibouti, ça lui a été refusé. Il y a sans doute des discussions qui sont en cours pour que les navires russes puissent accoster dans le futur lorsque la base chinoise qui ne peut pas porter son nom parce que les Américains étaient tellement opposés à l'idée de cette base qu'ils ont fait des pieds et des mains pour que Djibouti se refuse à donner son accord à la construction de cette implantation militaire chinoise à Djibouti. Les Djiboutiens ont considéré que c'était dans leur intérêt. Ils ont donné leur accord, mais alors on n'appelle pas ça une base. Techniquement, c'est une implantation logistique. Donc il y a les Chinois qui sont en train de.
Mais enfin, dans les faits, c'est quand même une base parce qu'on a non seulement des soldats, mais on a en plus, je crois, une infrastructure portuaire qui est en train de se construire. Ça va être quelque chose d'assez énorme, ce dispositif, appelons-le comme ça, chinois.
Ce qui est très intéressant, c'est que l'endroit techniquement où se construit cette implantation, appelons-la par son vrai nom, une base. C'est complètement solidaire, conjoint et entremêlé avec un gigantesque port multifonction, comme on dit, c'est-à-dire où on va décharger des quantités de marchandises énormes, des containers, du vrac, etc. Donc c'est une grande porte logistique de l'Afrique et on voit bien ce qui se passe à Djibouti. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un endroit où on se précipite pour prendre une case dans le positionnement géostratégique et géopolitique. C'est aussi un endroit où se réorientent des routes commerciales. C'est aussi un endroit où c'est une porte de l'Afrique qui s'ouvre de plus en plus largement. C'est aussi un endroit où, dans la vision chinoise qui a été définie il y a 2 ou 3 ans, sur ce qu'on appelait la nouvelle route de la soie, sur les grandes voies de communication entre la Chine et d'autres parties du monde, tout particulièrement l'Europe, on va avoir Djibouti, non pas comme un poste d'observation, une implantation simplement militaire, mais aussi un stop, une des grandes étapes. Et ça, c'est très intéressant parce que ça montre à quel point cet effet géopolitique, il peut être utilisé comme levier d'abord pour les pays qui sont intéressés par ça. Moi, je suis allé à Djibouti pendant un certain nombre d'années. Je me souviens de l'arrivée, l'ouverture de l'arrivée des Américains à l'époque au camp Le Monnier sur une toute petite implantation en 2002 puis 2003. C'était vraiment, il y avait une partie de gens qui dormaient sous des tentes. C'était vraiment très sommaire. Et les militaires français à qui on parlait à l'époque essayaient de mesurer leurs propos, mais on voyait bien que ça les agaçait considérablement. Le temps s'est écoulé depuis. Quand on parle aujourd'hui à des officiers français, enfin, ils sont extrêmement contents de voir qu'il y a une collaboration qui s'opère, qui est indispensable, qui s'opère sur des exercices précis, etc. Quand on parle des Chinois, là c'est différent. L'un d'entre eux disait, on se serre la main. Enfin bon, on va pas plus loin. Il y a eu un rapport très intéressant du Sénat américain qui a été consacré à ce sujet. Pourquoi les Américains ont-ils autant de réticence à voir les Chinois s'implanter à Djibouti? C'est en particulier parce qu'ils ont peur que cette proximité conduisent à une facilité d'espionnage plus importante, ils le disent très nettement.
En tout cas, ce qu'on voit très clairement qui est très intéressant, c'est qu'il s'agit bien sûr d'affirmer son identité de grande puissance aux côtés des États-Unis, mais c'est aussi, et vous le dites, de protéger ses intérêts économiques. Maya Kandel, c'est vrai qu'en 2014, Washington a accepté de doubler le prix du loyer de sa base militaire, qui lui coûte, je crois, 67 millions par an quand même. On comprend que Washington ne soit pas très content de voir arriver juste en face de sa base une nouvelle base chinoise.
Oui, puis en effet, Jean-Philippe Rémy évoquait l'espionnage. C'est clairement, le Djibouti, c'est aussi la principale base de drones des États-Unis, y compris les drones qui frappent éventuellement en Somalie, mais aussi au Yémen. Donc, il y a vraiment un enjeu important, et c'est clair que les Américains ont vu ça d'un très mauvais œil.
Jean-Philippe Rémy, ça sera peut-être ma dernière question. Cette présence étrangère, elle fait aussi qu'on oublie le caractère extrêmement répressif, par dire carrément dictatorial, du régime.
Oui, c'est clair que ça joue. C'est d'ailleurs malheureusement un grand classique. Le rôle de couvercle sur la cocotte minute, c'est un petit pays avec peu d'habitants, moins d'un million d'habitants, mais une situation politique vraiment très particulière. Alors, il y a cet espoir qui est un peu tiré par la construction d'infrastructures, etc. On voit que c'est un pays qui a engagé des réformes, des projets, qui même fait un gros coup de poker en investissant dans des infrastructures géantes, à la faveur justement de cette rente géostratégique, de cet intérêt général. C'est aussi un visage de la planète qui change, qu'on voit à Djibouti. Mais c'est vrai que ça, on ne peut pas s'empêcher de s'interroger sur le devenir d'un pays où, c'est vrai, l'espace politique est du zéro absolu et où il n'y a pas d'opposition, etc. On ne sait pas très bien comment Djibouti, avec le temps, évoluera, c'est sûr.
Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Philippe Rémy, d'avoir été avec nous ce matin depuis Johannesburg. Je rappelle que vous êtes le chef du bureau Afrique du Monde. On peut relire votre papier sur le site, d'ailleurs, dumonde.fr. Djibouti, objet de toutes les convoitises. Merci beaucoup.
Une armée en or, opérationnelle et républicaine. Le génie militaire, un exemple des actes pour le Gabon.
Son Excellence Omar Bongo Ondimba, ministre d'État Ali Bongo Ondimba, le général Mangolo Mvoulou, le DGGM colonel Mali Odjoa.
Ne me demandez pas où est-ce que Charles Le Gargasson a trouvé ce son de militaires gabonais qui ont mis en musique cette question du recrutement dans leur rang. Charles Le Gargasson, un véritable magicien. Merci beaucoup Maya Kandel de nous avoir accompagnés. Je rappellerai que vous êtes chercheuse à l'université Sorbonne Nouvelle, votre blog Froggy Bottom. Un grand merci à vous Amandine Nguenong d'avoir été avec nous en duplex depuis Saint-Etienne. Je remercie d'ailleurs les équipes qui sont à vos côtés et qui ont permis de faire la liaison jusqu'à nous. Je rappellerai que vous êtes directrice du projet Guerre et Recomposition du politique. Là aussi, il y a un site internet et que vous êtes par ailleurs chercheuse associée au centre Michel de l'hôpital de l'université d'Auvergne à Clermont-Ferrand. Voilà, on va quitter l'Afrique. On poursuivra bien sûr nos discussions demain dans cette série consacrée aux défis sécuritaires africains. Mais pour l'heure, place au monde des idées avec Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et on va poursuivre en musique, puisqu'on parle des Stones, vous en parliez déjà hier. Votre théorie, on en a eu un aperçu hier, c'est que les Beatles sont des Anglais qui ont redécouvert une musique américaine déjà démodée à leur époque, le rock, tandis que les Rolling Stones, un cran plus snob c'est vrai, ont pioché dans une autre musique américaine, le blues. Poursuivez.
Oui, mais pas seulement Florian. Les Beatles d'abord, quiconque a vécu quelque peu en Angleterre ne peut manquer d'associer immédiatement Penny Lane, à ces petites ruelles plaisantes avec leurs façades de maisons en briques peintes, leurs échoppes en bow window, leurs pubs victoriens aux enseignes en lettres dorées King's Arms, The Lamb and Flag, The Throat Inn. Malgré leur ancrage dans une modernité assumée, les Beatles ont popularisé dans le monde entier une notion tellement britannique que le mot qui la désigne est intraduisible, le quaint. Le meilleur équivalent, c'est charme suranné. mais cela induit aussi les idées de pittoresque, touchant et désuet. D'ailleurs, l'inspiration des Beatles plonge dans des traditions culturelles spécifiquement britanniques, comme les fanfares, Sgt. Pepper's, les nursery rhymes, All You Need Is Love, et le nonsense, Nowhere Man. Les Beatles sont anglais jusqu'au bout des boots, tout un côté tasse de thé de porcelaine et humour en demi-teinte, doucement loufoque avec cette dose d'excentricité pratiquement incommunicable en dehors des îles britanniques, a fortiori de l'autre côté de l'Atlantique. Les Rolling Stones, eux, se vivent à l'origine comme des garçons nés au mauvais moment, au mauvais endroit, avec en outre la mauvaise couleur de peau. Selon la légende, les fondateurs du groupe, Mick Jagger et Keith Richards, qui s'étaient connus adolescents dans la banlieue londonienne de Dartford, se seraient reconnus sur un quai de gare, chacun portant sous le bras des disques de Chuck Berry, de Little Walter, de Muddy Waters. Ce goût partagé des musiques noires américaines leur aurait donné l'idée de monter un groupe. Or, ce genre de disque était difficile à dénicher à l'époque en Grande-Bretagne. Il fallait être un peu snob et se les procurer auprès des marins américains en goguette sur l'île. Les deux compères ont ensuite repéré Brian Jones au fait qu'il copiait à la perfection le style du guitariste de blues Elmore James. À l'époque, Brian Jones se faisait d'ailleurs appeler Elmo Lewis. À ses débuts, le groupe, les Rolling Stones, semble mener une croisade pour le blues, ou plus exactement pour le rhythm and blues. Car leur référence, c'est le blues électrifié qui était joué à Chicago dans les années 50 par des musiciens noirs, généralement venus des États du Sud. Au blues sudiste rural, généralement joué à la guitare acoustique et à l'harmonica, les bluesmen de Chicago avaient ajouté en effet une basse électrique, une batterie et souvent aussi un piano. Ils en avaient fait une musique urbaine, « Bright Lights, Big City », comme chantait Jimmy Reed. La maison de disques qui a diffusé la plupart de ces musiciens de Chicago, Howlin' Wolf, Muddy Waters, John Lee Hooker, c'était Chess Records. Elle avait été créée par deux frères, Leonard et Phil Chess, des juifs originaires de Pologne, dont le dernier est mort d'ailleurs en octobre dernier. Il n'enregistrait que des musiciens noirs à destination d'un public presque uniquement noir. Rares étaient à l'époque les blancs qui écoutaient du blues. Cette musique passait encore pour une sorte de folklore. Alors lorsque les Stones se lancent à l'assaut des États-Unis dès 1964, ils demandent évidemment à visiter les studios Chess de Chicago. Un véritable pèlerinage pour ces enfants du blues. Et sur place, ils vont enregistrer 4 morceaux qui figurent sur un album pirate, Roth Stuff. Chuck Berry assiste à cet enregistrement et sa réaction, un brin ironique, se passe de commentaires. « Swing on, gentlemen, you are sounding most well, if I may so. » Poursuivez, messieurs, vous sonnez magnifiquement bien, si je peux me permettre. On écoute un de ces morceaux enregistrés au studio Chess de Chicago en 1964, « High Heel Sneakers ». We'll be right back. Et bien demain, on parlera des questions que posent aujourd'hui ces emprunts par des blancs-becs anglais à une musique noire. Ça s'appelle aujourd'hui de l'appropriation culturelle, on y reviendra.
Et la réappropriation culturelle selon les Stones, c'est ce morceau, vous l'avez eu, c'est dans votre discothèque?
Oui, oui, c'est un pirate que j'ai, ça s'appelle effectivement Roth Taff. Ça a été enregistré à Chicago en 64 chez Chess.
Donc après le pirate que j'avais proposé de Dylan, le pirate...
Chacun son tour, cher Florian.
Il y a battle dans l'air, merci Brice.